En France, Macron II assoit un gouvernement de hyperlibéralisme et de recyclage, rapporte RT France. Après la révélation du nouveau gouvernement, les oppositions livraient leurs analyses. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, est en particulier visé par l'opposition de droite pour ses prises de position polémiques sur le racisme. Après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, le 20 mai, les oppositions ont rendu public leurs avis. Lors d'un point presse, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a considéré que ce gouvernement était bien libéral. On retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement. Ce sera le pire, c'est-à-dire la continuité, a-t-il notamment tweeté, dénonçant en outre une communication mensongère au sujet d'un tournant écologique et social. Il a néanmoins vu une audace dans la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale, largement critiqué par la droite pour ses positions controversées sur les questions d'identité et de racisme d'État. Pape Ndiaye est également été défendu par le coprésident des Nouveaux Démocrates, proche de la France insoumise, Aurélien Taché, ex-macroniste qui note comme seul motif de satisfaction, certes non négligeable, cette nomination. Mais Pape Ndiaye sera certainement le Nicolas Hulot de l'émancipation. Je ne lui donne pas un nom nuance-t-il. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a constaté « On prend les mêmes et on recommence. 4 semaines pour un jeu de chaise musical. Le vrai changement, c'est votre vote des 12 et 19 juin qui l'apportera », a-t-il ajouté en référence aux élections législatives. Le premier secrétaire socialiste PS Olivier Faure a ironisé « Emmanuel Macron a eu raison de nous faire attendre si longtemps ça valait vraiment la peine ». On attend maintenant le projet, si possible, avant le 12 juin. L'eurodéputé de la gauche républicaine et socialiste, Emmanuel Morel, y voit également un gouvernement aussi enthousiasmant qu'un slogan de Giscard. Peu de changements, beaucoup de continuité, les mêmes pour la même politique. La neutralité suisse aurait été ciblée. Un incendie s'est déclaré à proximité de l'aéroport de Genève ce vendredi en fin d'après-midi. Une épaisse fumée noire s'en est dégagée, visible depuis plusieurs endroits du canton. En raison des fortes nuisances créées par le sinistre, l'aéroport a pris la décision de suspendre les atterrissages et décollages. Une partie du trafic a été déroutée vers Lyon. Et Bâle a indiqué à l'effet Ignace Gendra, porte-parole de Cointrain. Plusieurs déflagrations ont également été entendues, se sont inquiétés des internautes. Selon 20 minutes, ce sont au total 5 explosions qui ont retenti, causées par des bonbonnes de gaz. Et l'impressionnant dégagement de fumée s'est vu à des kilomètres à la ronde. Il est un peu plus de 17 heures ce vendredi quand un énorme nuage de fumée noire s'élève dans le ciel, visible à des kilomètres. 5 déflagrations se font aussi entendre loin à la ronde. Les sirènes crépitent dans toute la ville. Les véhicules de secours ont convergé vers l'aéroport où un spectaculaire incendie s'est déclaré. Une 15aine de véhicules sont mobilisés ainsi qu'une 50aine de pompiers professionnels du service d'incendie et de secours SIS de l'aéroport et des volontaires des communes du Grand Saconnex et de Bellevue. C'est la toiture du futur bâtiment de la police internationale et du centre fédéral de requérants d'asile au Grand Saconnex qui a pris feu. Des travaux d'isolation étaient en cours sur ce chantier situé au chemin du Bois Brûlé, au bout des pistes de l'aéroport vers la route de Colovrex. La police ferme rapidement celle-ci à la circulation, ce qui provoque un report du trafic et des bouchons sur la route de Verneuil. Le trafic aérien est lui aussi mis à l'arrêt dès 17h30. L'important dégagement de fumée dû à la combustion du goudron et d'autres matériaux d'isolation utilisés sur le chantier empêche les avions de manœuvrer. Le fervent a été notre ennemi car il a poussé la fumée dans le sens de l'approche des avions, a confié le lieutenant Nicolas Mieux du SIS. Tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y aura plus de risque d'explosion, nous ne pouvons pas autoriser la reprise du trafic aérien, a-t-il dit. L'explosion de 5 bonbons de gaz a aussi justifié de bloquer les mouvements aériens au pied de l'immeuble en construction. Une bonbonne complètement éventrée donne idée de la force de la déflagration. Des débris de métal et de matériaux de chantier ont été propulsés à des dizaines de mètres, notamment sur le territoire de l'aéroport, juste à côté de la piste d'atterrissage. Une personne en état de choc a dû être transportée à l'hôpital en ambulance. Il reste encore une dizaine de bonbons qui n'ont pas explosé comme elles ont été explosées à la chaleur des flammes. Elles peuvent être instables, explique Nicolas au Nicolas Mieux. Ce 20 mai, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré que la conquête de la région séparatiste de Lugansk ou Luhansk était sur le point d'être achevée après 3 mois de combat contre les forces ukrainiennes. Les unités des forces armées russes, avec les divisions de la milice populaire, des républiques populaires de Lugansk et Donetsk, continuent d'accroître le contrôle sur le territoire du Donbass. La libération de la république populaire de Lugansk est presque achevée, a en effet affirmé M. Choïgou, dont les apparitions médiatiques ont été rares depuis le 24 février dernier, ce qui a donné lieu à des rumeurs sur son état de santé. A noter qu'il en est allé de même pour le général Valéry Garisimov, le chef d'état-major des forces armées russes, dont l'absence lors des célébrations du jour de la victoire à Moscou le 9 mai a été abondamment commenté. Certains ayant avancé qu'il avait été blessé lors d'une attaque contre un poste de commandement russe alors établi dans la ville d'Izium. Or, l'intéressé s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain, le général Mark Milley, le 19 mai. Ce qui n'était plus arrivé depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, ils ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation liés à la sécurité et sont convenus de maintenir les lignes de communication ouvertes, a indiqué le Pentagone. Quoi qu'il en soit, et pour le moment, la conquête de la région de Lugansk paraît être un gain bien maigre au regard de l'ampleur de l'offensive russe et surtout de ses conséquences géopolitiques. Si l'objectif était d'empêcher l'élargissement de l'Alliance Atlantique à ses frontières, la Russie aura obtenu des faits inverse. En effet, plus que celle de la Suède de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qui reste cependant suspendue à un veto possible de la Turquie, pose un défi d'une toute autre nature pour Moscou, étant donné que ce pays partage une frontière de 1300 km avec la Russie. En outre, la Finlande offre une capacité d'accueil des troupes de l'Organisation Atlantique sans commune mesure avec celle des trois pays baltes, également frontaliers avec la Russie. Cependant, et sur ce point, son président Sauli Niinisto a dit que son pays veut rester flexible sur la tenue d'exercices conjoints avec l'OTAN ainsi que le déploiement d'équipements militaires sur son territoire et cela afin d'éviter des frictions avec Moscou. La flexibilité, c'est le plus important actuellement de garder un œil sur la situation, de ne pas surréagir et de donner à quiconque de raison de surréagir tout en étant capable de réagir immédiatement, a en effet expliqué M. Niinisto à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Joe Biden le 19 mai. Cela étant, si la candidature de la Finlande est acceptée, alors l'OTAN sera à 2 pas du port militaire de Murmansk, siège de la flotte russe du Nord. Or, celui-ci est essentiel à la stratégie de Moscou pour le Grand Nord et il offre un accès direct à l'Atlantique. En outre, l'Alliance pourrait couper la Russie de la mer Baltique, ce qui aurait pour conséquence d'entraver les échanges commerciaux avec l'Europe ainsi que les mouvements des forces navales russes. En outre, l'accès à l'enclave de Kaliningrad par voie maritime serait empêché. Enfin, Moscou pourrait estimer que le gazoduc Nord Stream 1, qui part de la ville de Vyborg, finisse par être menacé. S'il a qualifié la candidature à l'OTAN de la Finlande et celle de la Suède d'erreur, le Kremlin a cependant estimé qu'elle n'allait pas constituer une menace immédiate pour la Russie. Cependant, a prévenu le président russe Vladimir Poutine, le déploiement d'infrastructures militaires de l'OTAN sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. Finalement, et sans attendre l'admission officielle de la Finlande et de la Suède, au sein de l'OTAN, Moscou a d'ores et déjà pris des mesures militaro-techniques. Ainsi, M. Shoigu a annoncé la création de 12 nouvelles bases militaires dans le district militaire de l'Ouest afin de faire face à la croissance des menaces militaires aux frontières russes. Comme l'illustre, selon lui, les manœuvres Defender Europe actuellement en cours, ainsi que la hausse du nombre de vols de bombardiers stratégiques américains en Europe et les déploiements de navires de l'US Navy dans la région de la Baltique, en particulier le long du secteur de Kaliningrad. La création de ces 12 nouvelles bases d'ici la fin de cette année sera synchronisée avec la fourniture d'armes et d'équipements modernes aux troupes, a assuré M. Shoigu, sans donner plus de détails sur les capacités appelées à être ainsi renforcées. Avec l'aide active des dirigeants européens, les États-Unis parviennent à ruiner l'Europe. L'Amérique n'a plus la puissance monétaire, l'excédent commercial et une balance des paiements toujours positive qui lui permettait d'élaborer les règles du commerce et de l'investissement dans le monde depuis 1944-1945. La menace qui pèse sur la domination américaine est que la Chine, la Russie est le cœur de l'île monde eurasienne. De Mackinder offre de meilleures opportunités de commerce et d'investissement que celle offerte par les États-Unis qui demandent de plus en plus désespérément des sacrifices à leurs alliés de l'OTAN et autres. L'exemple le plus flagrant est la volonté des États-Unis d'empêcher l'Allemagne d'autoriser la construction du gazoduc Nord Stream 2 afin d'obtenir du gaz russe pour les prochains froids. Angela Merkel s'est mise d'accord avec Donald Trump pour dépenser $1 milliard dans la construction d'un nouveau port GNL afin de devenir plus dépendante du GNL américain, dont le prix est élevé. Le plan a été annulé après que les élections américaines et allemandes ont changé les deux dirigeants. Mais l'Allemagne n'a pas d'autre moyen de chauffer un grand nombre de ses maisons et immeubles de bureaux ou d'approvisionner ses entreprises d'engrais que le gaz russe. Le seul moyen qui restait aux diplomates américains pour bloquer les achats européens était d'inciter la Russie à lancer une réponse militaire, puis de prétendre que la République à cette réponse doit l'emporter sur tout intérêt économique purement national, comme l'a expliqué la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, Victoria Nuland, lors d'un point de presse du département d'État le 27 janvier. Si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, le Nord Stream 2 n'avancera plus. Le problème est de créer un incident suffisamment offensif et de dépeindre la Russie comme l'agresseur. Pourquoi la rapide adhésion Suède-Finlande? Les racines de l'intégration accélérée des Scandinaves à l'Alliance ne se trouvent pas au sud, mais au nord. Elles résident dans une intensification significative depuis 2020 de l'expansion politico-militaire par Washington et Bruxelles dans l'Arctique. Cette région est considérée comme la réserve principale d'hydrocarbures à terme et l'endroit d'un affrontement géopolitique imminent entre les puissances. C'est dans l'Arctique, selon les prévisions, que se décidera le sort de l'humanité. Les Alliés ont commencé la reconnaissance par le feu, une première depuis la guerre froide, en mai 2020. lorsque trois destroyers américains, un Roy Burke et la frégate britannique Kent, sont entrés dans la mer de Barents, jusque-là les eaux sillonnées par la flotte du Nord russe. À la mi-janvier 2021, le Pentagone a adopté la nouvelle version de sa stratégie arctique appelée « Regaining Arctic Dominance », retour de la domination dans l'Arctique. Ces stratégies stipulent que le groupe en Arctique est loin de correspondre aux objectifs et projets des États-Unis. La Russie et la Chine sont désignés comme les principaux adversaires dans cette région, en soulignant tout particulièrement la nécessité de renforcer l'interaction entre les alliés dont il est manifestement prévu d'élargir le cercle. Le 14 juin 2021, Bruxelles a accueilli un sommet de l'OTAN où, pour la première fois, les problèmes de l'Arctique ont été évoqués largement et conceptuellement. Le document adopté lors de cette réunion constaté la nécessité de renforcer la coordination dans le cadre de la politique arctique de l'Alliance, d'augmenter la puissance militaire. Il a été reconnu utile de poursuivre l'élaboration d'une stratégie détaillée de l'OTAN sur l'Arctique. On y devinait également l'intention d'impliquer dans cette activité de nouveau alliés. Il était également constaté que les forces actuelles de l'OTAN ne suffisaient pas pour faire face dans la zone arctique à la Russie et à la Chine qui la soutient. La mise en œuvre de la stratégie arctique de l'Alliance sorte aux limites géographiques, le contrôle physique de la Russie sur la majeure partie de la région. Si à l'est de la route maritime du Nord, les Américains ont prévu un renforcement significatif de leur présence militaire dans l'Alaska et l'intensification de telles actions du côté du Canada, à l'ouest, ils observent manifestement une brèche. Le potentiel territorial de la Norvège ne suffit pas. Les limites naturelles sont importantes en Islande et au Groenland. À l'époque déjà, il était devenu évident pour les experts qu'il faudra renforcer ce flanc grâce à la réserve la plus proche, la Suède et la Finlande. Tout prétexte pouvait servir pour intégrer la Finlande et la Suède. Il a été trouvé en Ukraine, surtout que ce prétexte est assez émotionnel pour un impact efficace sur l'opinion publique de ces pays. Contrairement à l'élite dirigeante, elle est sceptique quant à l'idée de rejoindre des alliances militaires. Il était également important de neutraliser les objections de Moscou.